La sex. Exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Vous êtes à l'écoute de la sexploratrice en compagnie de Mel Trudel et Louis Gauvin.
Yeah, hello.
Hello, hello.
En forme?
En forme, oui, j'ai fait ma petite sieste avant de venir, puis j'ai repris mes énergies.
Oh yeah, t'as de l'air en feu.
Oui, oui, je le suis. Et toi, belle journée?
Oui, grosse journée, mais très belle journée. Là, j'ai fait un petit peu d'overtime avec M. Carbeau tantôt.
Oh.
On a eu du fun comme on en a la fin de semaine habituellement.
Yes.
Ça va être la même chose demain, puis vendredi, j'étais avec toi, vendredi soir.
C'est vrai avec le psy?
Oui, madame.
Oh, wow, nice. OK, super. Donc, on parle d'auto-sabotage ce vendredi. N'hésitez pas à nous appeler en live. Ouais, écoute, on va en parler. Et on prend également vos questions par courriel. Hein, si vous ne souhaitez pas nous contacter ou si ça ne vous adonne pas, vous pouvez nous écrire via la sexploratrice à commercialradiox.com. Bulletin spécial ce soir, Louis.
Oh que oui, on est une émission d'information.
Et voilà. Donc, comme on le dit, hein, la sexploratrice, on parle, oui, de relations, d'amour, de sexualité et tout ce qui englobe tout ça, finalement.
Oui.
Mais on va aussi parler de quelque chose qui nous tient à cœur ici à Québec. Et on va justement rejoindre la voix des capitales de Québec qui a quelque chose à nous annoncer ce soir.
Oh, bonjour, bonjour, les
sexploratrices. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Pee-wee, le sexplorateur.
Bonsoir, bonsoir. Alors, on remonte à loin, là. Mais,
oui.
Mais oui, c'est vrai. Dans le fond, c'est ça. Les capitales de Québec étaient à Washington, match numéro 2, et ont signé une grosse victoire, 11-6 sur le Wild de Washington.
Yes.
Donc, c'est 1-1 dans la série 3-5. C'est donc un 2-3 qui se déplace à Québec vendredi. C'est déjà complet pour le match numéro 3, mais on aura un match numéro 4 samedi soir. Soyez présents en grand nombre pour encourager notre équipe qui sont en quête de troisième championnat en 3 ans. Donc, les billets seront en vente demain matin, 9h, sur le site des capitalesdequebec.com. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Le championnat qui va se gagner à Québec. C'est
oui.
Pas fait encore, c'est pas fini tant que c'est pas fini, mais depuis que les Capitales sont dans la Ligue Frontière, ils sont invaincus au Stade Canac. La magie du stade qui est bel et bien réelle. Donc vendredi, c'est complet. Samedi, le championnat pourrait se gagner. Si besoin, un match numéro 5 aura lieu dimanche soir. Mais pour l'instant, ça augure très, très bien. Je pense que le retour à Québec pour les boys de 14 heures d'autobus va se faire avec un petit sourire en coin en se disant qu'il nous en manque juste 2 pour soulever le championnat.
Hey, puis c'est tellement une belle sortie familiale, en amoureux ou même pour une première date là, aller au Capitale. Puis achetez vos billets rapidement hein, parce que ça s'envole comme des petits pains chauds, c'est incroyable.
Oui,
on a essayé d'en avoir même la semaine dernière. Comment?
Ouais. Donc, demain matin, 9h pour le match de samedi. Vendredi,
oui.
C'est à guichet fermé. Mais samedi, ça va se ramper rapidement aussi. Donc, procrastinez pas trop. Demain, 9h, capitalequebec.com, réservez vos places.
Ouais.
Parce que Capitale gagne vendredi, ben on est à seulement une seule victoire et ça pourrait être samedi soir que le championnat serait gagné. Washington, c'est pas une équipe qui est facile. Nous ont surpris hier. Mais c'est pas encore gagné, mais disons que ça augure bien avec une série égale 1-1.
Puis l'ambiance dans le stade, là, on va se le dire, là, c'est pas parce que j'ai un parti pris, là, mais c'est quelque chose. Et tu y es pour beaucoup. Mais c'est vrai,
wow.
Je suis très sincère en disant. Non, mais c'est vrai, tout le monde le dit. Si on compare l'animation dans différents stades, là, Québec, c'est quelque chose. Là. La foule, l'animateur de foule et l'équipe de promo, vous êtes extraordinaire.
Ah, merci
je
beaucoup.
Je voulais le dire.
Merci, c'est gentil, mais tu sais. En toute humilité, je pense que pendant les séries, les gens viennent voir du baseball, viennent
ouais.
voir le match. Donc, il y a moins de promotion. On garde toujours le Take Me Out, le Sweet Caroline, le karaoké,
ouais.
le Pizza Scream. Mais sinon, tu sais, c'est beaucoup plus du baseball. Puis les gens viennent voir les Capitales. Il y a moins d'enfants qui courent partout. C'est beaucoup
ouais,
plus
ça, c'est vrai.
Des passionnés qui regardent le match, qui sont là pour les bonnes raisons. Mais non, sérieusement,
ouais.
là, j'ai vraiment hâte à vendredi.
L'ambiance va être incroyable.
Vendredi et samedi aussi, ça va être tout aussi incroyable. Donc, capitalequebec.com, demain 9h, billet pour le match de samedi.
Yes.
Let's go, on se voit au stade.
Merci pour cette petite intervention.
Hey, bon choix à vous autres.
Bonne fin de soirée. Bye bye.
À tantôt.
À tantôt. Mais non, mais je trouvais important de le souligner. C'est quelque chose, là, quand même.
Ben oui, vraiment. Puis je pense que ça s'est jamais vu, là, 3 championnats d'affilée dans la Ligue Frontière. Fait que ouais, ça serait une première à Québec, la meilleure équipe.
On est chanceux d'avoir ça chez nous. Tu sais, j'étais au Fenway Park encore récemment. Ça m'a coûté une fortune pour 2 billets. Puis pour vrai, là, c'est pas un meilleur... Oui, c'est un meilleur baseball là, au niveau de la finition. Tu sais, mais ton plaisir est pas plus grand.
Non.
Le plaisir est grand parce que t'es pas chez vous. Tu vois, mais le petit stade ici, il est trippant.
Il y a quelque chose.
Il y a une proximité. Yannick fait une job hallucinante.
Oui.
Les joueurs sont proches du monde. C'est accessible. Et je trouve qu'on a ça avec les Alouettes à Montréal aussi. Et puis, et je trouve que le Rouge et Or également nous apporte ça. On est gâtés d'avoir ça au Québec, vraiment.
Ce qui fait qu'on a encore plus de fun, selon moi, à une game des Capitales qu'à, mettons, à une game des n'importe quelle équipe dans MLB, là, c'est que les Capitales sont à nous.
Ah, absolument.
On est à Québec, c'est notre équipe.
Oui.
C'est les Capitales de Québec. C'est,
oui,
c'est pas de Boston, c'est pas les Blue Jays de Toronto.
On a bien d'appartenance.
C'est
puis,
ça, on est content quand ils gagnent.
Oui.
Une fierté.
Puis toute la gang, tu sais, Michel, sa conjointe qui suivait, les enfants. C'est une histoire de... c'est familial.
Il y a un happening autour du baseball aussi.
Ouais.
Mettons qu'on est les 3 demain soir, puis on va voir le match, tu sais. T'as le temps de jaser du jeu, t'as le temps de parler de ta journée, t'as le temps... Il y a de quoi d'agréable avec le baseball, tu sais, c'est comme... tu t'en vas voir une game de hockey, là, tu peux pas laisser la glace 2 secondes.
Mais
tu, hey, j'ai envie, je peux pas y aller, il y a un jeu qui s'en vient. Mais au baseball, il y a de quoi, il y a un mood, c'est le fun, t'analyses, c'est trippant.
Puis en plus, au stade Canac... 2 poutines, 4 hot dogs, 2 bières.
Mais oui, ça n'a pas de bon sens. Je regarde une fois, je vais augmenter vos prix, quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Et là, mesdames et messieurs, la personne que vous entendez qui est en notre compagnie, eh bien, c'est Simon Saint-Hilaire.
Allô?
Que vous avez l'habitude d'entendre dans d'autres shows. Hein?
Oui, oui.
Mais c'est ta première fois ici dans la exploratrice.
Oui, absolument.
On s'en était parlé cet été.
Oui, je suis chanceux d'être ici. Je suis content.
Ben moi, écoute, ce soir, c'est un 2-pour-1 en plus.
Ah oui?
Oui. Ce soir, on veut t'avoir comme collaborateur, comme chroniqueur. Mais je veux aussi t'avoir comme explorateur de choix.
Je suis bien content d'être là. Vraiment, merci
de l'invitation. Après la pause, on va aller dans le crunchy un petit peu dans ta vie perso. On va se gâter. On a le temps.
Oh, okay,
c'est
oui.
Correct, ça.
Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Simon, ça peut arriver, hein, le
oui.
soir, des gens qui te découvrent.
J'espère qu'il y en a qui ne me connaissent pas.
Mais oui, exactement. Donc, Simon Saint-Hilaire, qui est formateur en vente,
oui.
Service à la clientèle. T'en es à ta combienième année?
30e année.
Hey,
je débute
incroyable.
Ma 30e année.
Wow.
Ça va vite, hein? Et j'ai commencé, j'avais 25 ans. Je venais d'avoir 25 ans. Et puis, j'en viens pas comment c'était vite. J'ai encore le même plaisir. J'ai l'impression d'être meilleur que j'étais de 30 ans. Il faut.
Ben, j'espère.
Il faut que l'expérience serve à quelque chose. Oui, ben, c'est gentil. Mais aussi, t'as de l'acquis. Tu sens que t'as une solidité. Tu te sens bien. Puis, et je suis chanceux de faire ça. On est chanceux. Je suis chanceux, moi, de jouer à la radio avec vous autres. C'est votre métier. Moi, vous m'invitez à jouer avec vous autres comme ça régulièrement. Mais de s'entretenir avec des gens comme ça. Et puis, j'aurais aimé ça plus jeune, moi, être, mettons, un artiste. Tout le monde aurait souhaité être un rockstar dans la vie. À un moment donné, tout le monde aurait souhaité être un rockstar. Quand je donne une formation, c'est une journée complète ou ça va être sur 2 jours. Ça dépend du type de formation que je vais donner. Mais quand je donne une conférence, c'est un spectacle, c'est un show. C'est vraiment comme si je faisais mon show d'humour. Il y a effectivement une grosse partie d'humour dans ça. Parce que le contenu est important, mais le contenant est essentiel. Faut que tu accroches ton monde. Et puis, et c'est extraordinaire parce que je rencontre des gens dans tous les domaines. C'est une semaine, je peux avoir un groupe d'ingénieurs une journée. Le lendemain, je peux avoir une boutique qui vend des jouets sexuels, des jouets érotiques, pour vrai. J'en ai
mais
fait
oui.
quelques fois. Je peux avoir un salon funéraire le lendemain. Et puis, c'est extraordinaire. J'en ai plusieurs d'ici là, mais à la fin du mois, j'ai un congrès que je fais pour la... J'ai fait la première fois en 2001. Puis je le fais encore cette année. C'est encore moi je dirais le conférencier pivot là, qui est en tête d'affiche. C'est 8500 personnes sur 2 jours qui assistent
Combien?
Au congrès. 8500 personnes sur 2 jours.
Oui.
Et puis, mais ils ne viennent pas les 8500 dans ma conférence, sauf que c'est un congrès dans l'esthétique. C'est toute l'industrie de l'esthétique et la coiffure, celui-là. Puis c'est hyper intéressant. Tu rencontres des femmes et des hommes qui sont à leur compte, qui ont tout balancé, ils ont tout risqué pour être capables d'évoluer comme ça dans un domaine aussi compétitif. Ils cherchent des nouvelles idées, des nouvelles solutions pour se démarquer de la compétition, de la concurrence, prendre leur place. je suis béni de pouvoir jouer, de rencontrer ce monde-là, m'amuser avec eux, les revoir. Puis, et ce congrès-là est trippant parce que j'ai des gens qui m'ont entendu dans ces congrès-là, mais moi, j'ai des clients comme Clarins, j'ai des clients, toutes les marques que vous connaissez au niveau esthétique, c'est à peu près tous mes clients. Alors, il y en a qui m'ont entendu à 25 fois au congrès, puis parce que je donne 2-3 conférences par année à ce congrès-là.
Puis en plus, leur patron
dans leur patron m'a engagé, d'autres... Puis là, ils viennent me voir, puis là, ils disent hey, c'est ma 52e fois que je participe à une de tes conférences. C'est un beau velours que les gens te font. C'est un beau cadeau que les gens te
puis
font.
Puis ça t'incite à toujours évoluer, tu sais, à faire.
Faut changer des choses. La business évolue, la vente évolue, le service à la clientèle aussi. Puis, mais le consommateur change également. Alors, fait que tu sais, de suivre le comportement du consommateur. Et puis, fait que c'est vraiment. Oui. Je suis vraiment chanceux de faire ça.
Ah, c'est le fun. Il y a déjà quelqu'un sur le live qui dit oh, ça va être intéressant.
C'est gentil. Oui. Merci. Merci.
Donc, si vous avez des questions pour Simon, gênez-vous pas, le 418-670-9098 par téléphone ou sur le live. Gênez-vous surtout pas. Hein. On
avec
prend les
plaisir,
appels. On a
plaisir.
Le temps ce soir. Simon, on va y aller avec ta petite chronique.
Ben oui, c'est que je m'en venais ici, puis j'étais habitué de faire mes chroniques avec l'équipe de DH, puis José, puis Louis, puis tout le monde, puis avec Jordan également. Puis, et je me disais, ce serait le fun de faire une chronique. Et puis, c'est sûr que moi, je tourne toujours autour du monde des affaires où, mais qui va jouer autour de ça, mais il y a la sexualité, ce que c'est ça fait partie de nos vies. Et puis là, je suis dans le show avec la sexploratrice. Alors, je me disais... Faut que j'aille quelque chose dans ça. Il y a un magazine que tout le monde a entendu parler ou connu, ou plusieurs en ont tenu dans leurs mains de manière différente. Le Playboy,
ça
hein, le fameux Playboy. Louis non plus, hein.
Non.
Et c'est drôle parce que le magazine Playboy, c'est plus qu'un magazine érotique. D'abord, il a pavé la voie à plusieurs choses, mais c'est vraiment plus qu'un magazine érotique. Et Hugh Hefner, ce qu'on se rend pas compte, ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a eu un impact au niveau de ce qu'on fait ici à Choix Radio X au niveau de la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, ça va aussi avec les magazines érotiques à l'époque. Et faut savoir que Hugh Hefner, c'est que les gens qui le connaissent pas, c'est lui qui a fondé le magazine Playboy. Les gens l'ont tous vu. Hein? Il y avait une bouille sympathique. Il avait toujours sa robe de chambre. Hein? Et puis, alors, fait que il avait toujours sa robe de chambre comme ça. Est-ce que tu veux que je le tasse?
Non. Je veux juste ajuster un petit truc. Je vais peut-être faire un petit live TikTok pendant
que tu parles. Et quand on regarde... Alors, fait qu'il y avait une espèce de... C'était un symbole, hein, Hugh Hefner. C'était un personnage réellement. Il y avait le Playboy Mansion. Souvenez-vous qu'on voit dans plusieurs films dans lesquels il y a le Playboy Mansion.
Ben, ça fait partie de la culture populaire. Là, c'est même retrouvé dans des jeux vidéo.
Totalement.
T'sais, moi, j'ai un exemple, GTA V.
Oui, oui.
Il y a la reproduction du manoir Playboy. C'est pas dit explicitement, mais c'est la même affaire. Là. La petite grotte puis tout le kit, là, c'est vraiment le manoir Playboy.
Ça, c'est Grand Theft Auto, c'est ça?
Ouais.
Ouais.
C'est fascinant. Hein? Et des gens vont se souvenir de Beverly Hills Cop avec Eddie Murphy à l'époque, où Eddie Murphy arrive... dans son enquête, il est à Los Angeles, puis il s'en va à la Playboy Mansion comme ça, puis et là, il arrête, puis il regarde ses pantalons, puis là, il dit « Réveille, là! Réveille, c'est le temps, là! Tout ce qu'on a rêvé, là, c'est maintenant! Là, faut que tu te réveilles! » Alors, il y a toujours des choses fort intéressantes autour de ça. Et je me disais, je peux pas venir dans Sexploratrice sans parler un peu de ça. Il faut savoir que moi, j'ai 55 ans et je fais souvent des faces avec ça. Je parais 3-4 mois plus jeune que mon âge, mais j'ai 55 ans pareil.
Mais tu le fais tellement pas.
T'es gentil.
Très sérieusement, en tout cas,
c'est vraiment fin. C'est vraiment fin.
C'est fou, là, à quel point t'as l'air jeune.
Je
on le sent aussi.
C'est gentil. Je fais mon âge le matin quand je me lève. Alors, vraiment. Mais,
quand une guêpe te pique le nez,
aussi. Les gens qui nous regardent, je me suis battu avec une guêpe et j'ai perdu le combat. Mais ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que c'est plus jeune, l'érotisme, c'était autre chose. Hein? Puis Hugh Hefner, juste pour que les gens sachent un petit peu c'est qui, il est né en 1926 à Chicago, en Illinois. Et puis, il était dans une famille protestant-méthodiste conservateur. Alors, vous aurez compris que c'est pas parce qu'il y avait une famille là, qui était vraiment ouverte sur la sexualité et autres. Il a étudié. D'abord, il a servi dans l'armée américaine pendant un court moment.
Oh,
il a même fait la guerre, la Deuxième Guerre Guerre mondiale. Alors, il a servi. Il est allé pendant la Seconde Guerre mondiale, brièvement, là, il a servi là-bas. Et à son retour, il a étudié la psychologie. Et c'est là que je me suis dit, Mélanie va trouver ça intéressant parce qu'il a étudié la psychologie. Alors, à l'Université d'Illinois, puis il a obtenu son diplôme en 1949. C'est en 1953 que sa vie change, puis notre univers change également, parce qu'en 1953, il reçoit un prêt de 600 $, ce qui peut paraître banal, mais
ben à l'époque,
600
piastres
en 53, c'est beaucoup d'argent, et il réussit à aller chercher 8 000 $, ce qui est énorme à l'époque, les 8 000 $. Mes parents ont acheté leur première maison en 74, ils l'ont payé 17 000 $ à Charlebourg.
Puis ça, c'est en 53.
Alors, imaginez 8 000 $ en 53. Il y avait plusieurs investisseurs qui avaient accepté d'embarquer dans son projet. Et donc, sa mère, en passant, ce qui est intéressant. Et là, il lance le premier numéro 1, la première édition de Playboy, et qui on retrouve en page couverture. Marilyn Monroe. Alors, puis vous imaginez, et pas besoin de vous dire que ça, il y a eu des gens qui n'étaient pas contents, des gens qui étaient mécontents, la politique s'est mêlée de ça, mais c'est un succès instantané. On parle de 50 000 revues qui sont vendues la première édition. Et Playboy devient vraiment, comme Louis l'a dit tantôt, comme vous l'avez dit toutes les deux, ça devient vraiment un objet de culture populaire. Hein? Oui. Ça fait partie de nos vies. Et à l'époque, les gens disaient, moi, je le lis pour les articles. Hein? Les gens disaient ça. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y avait des articles. Parce que c'était de la nudité, Playboy, c'était de l'érotisme, mais c'était classique. C'était des bons des grands photographes qui ont travaillé pour Playboy. On mettait il y a des gens qui parlaient de l'objectivité du corps de la femme. On pourrait aller là aussi, c'est bien entendu, mais il mettait le corps de la femme en évidence à une époque où on n'était pas habitué à ça. Et puis c'était un tabou qui faisait tomber, là, vraiment.
Mais c'est quand même sur un piédestal.
Ah, totalement.
C'est ça, c'était pas dégradant.
Mais exactement. Puis il y en a qui pourraient trouver ça dégradant, oui. mais c'était une façon de faire les choses. C'était pas le but. Et alors, il y avait des engagements, là, vraiment, au niveau sociaux et politique également. Il s'est impliqué. C'était une personne qui était importante. Il s'est marié 3 fois, dont 2 fois avec des playmates. Bien sûr, il a pigé dans son écurie, on pourrait dire ça comme ça. Et puis il est décédé en 2017 à l'âge de 91 ans. Je pense qu'au Playboy Mansion, il y a pire endroit pour mourir, je pense. Et puis, on peut définitivement dire qu'il y a eu une vie pas mal intéressante. Et je me souviens, dans une entrevue avec Piers Morgan il y a plusieurs années, Piers Morgan lui demande si il était c'était les débuts du Viagra. Il dit, est-ce que t'es un adepte de la pilule bleue? Il dit, absolument. Et il dit, est-ce que c'est une nécessité? Il dit, je sais pas. Mais il dit, je la prends. Il dit, mais pourquoi? Mais il dit, pourquoi m'en priver? Il dit, je suis un super-héros avec ça. Oh. Il dit, pourquoi je m'en priverais? Alors, il y avait vraiment il était sans gêne, il était sans pudeur à
pas
ce niveau-là.
Tabou,
et puis, il était vraiment un personnage fort intéressant. C'est pour ça que je me disais, ça peut être le fun. Il faut savoir qu'à une époque, tu sais, Louis, on n'a pas le même âge, toi et moi, puis ton accès à l'érotisme ou même la pornographie, c'est fait avec l'Internet.
Ben, au bout de mes doigts, à n'importe quel
moment. Ben,
exactement. Toi, t'es né là-dedans, dans le
ben
fond.
Oui.
Ouais.
T'es né carrément.
Toi, t'es né en quelle année, Louis?
Ben, en 2002. Fait que j'ai quand même vu ça arriver, mais ça s'est comme développé en même temps que moi.
Oui, mais sauf que quand même, toi, t'es un monde où l'Internet n'existait pas, ça arrive pas de ta vie, ça n'a jamais existé.
Non. J'ai un monde où l'iPhone n'existait pas.
Ouais,
je me rappelle,
mais 2-3 ans, mais l'iPhone est arrivé en 2007. Ouais, c'est ça,
Facebook
exactement.
Facebook est arrivé quand t'avais 5-6 ans.
Facebook en 2004.
Ah, 2004.
Okay. 2004, ouais,
ça n'a pas monté tout de suite. Ouais. Ça n'a pas été très gros tout de suite, mais c'est arrivé en 2004. Alors, fait que t'as connu ça. Alors que plus jeune, à mon époque, et là, les auditeurs, puis ça serait drôle s'il y a des auditeurs qui viennent nous l'écrire, mais ou dire, moi, oui. Mais les gens de ma génération, notre premier contact avec ce qu'on pourrait appeler un peu d'érotisme, c'était le catalogue Sears dans la section lingerie.
Catalogue Sears, après ça, il y avait Bleu Nuit.
Oui, hein, ouais, ah, Bleu Nuit, écoute, c'est quelque chose. TVEC, il y avait premier choix TVEC à l'époque,
oui,
les gens vont se souvenir de ça.
Il y avait les postes là, floutés.
Oh,
là,
oui, absolument. Totalement. On jouait avec le contrôle pour essayer d'ajuster la télé pour être capable de voir. Et j'espère que les gens qui reconnaissent ou qui se souviennent jeunes de cette période-là vont embarquer avec nous autres. Mais,
oui.
Mais c'était ça, hein, c'était ça. Alors, fait que quand le Playboy, quand on avait...
Les cassettes VHS qu'il fallait les chercher
Oui, puis elle, fallait, dans les portes battantes, hein, les moi, j'y suis jamais allé, là, mais j'ai un ami qui y allait souvent, puis même que quand il passait devant les boîtes, les filles sur les boîtes lui faisaient des clins d'œil. Mmh. Alors, fait qu'il y allait assez souvent, mais sauf que...
Quelle époque!
C'était vraiment une époque intéressante. Et lorsqu'on regarde ça, c'est qu'au niveau du Playboy, c'est que dans les choses qui sont intéressantes, c'est que il y a l'été, c'est un des premiers magazines qui a commencé à parler de la diversité, entre autres. Ce qui est curieux, mais lui parlait de la diversité. C'était vraiment un magazine où il y avait pas de tabou. Il y avait des grands auteurs, sérieusement. Et quand les gens disaient « je le lis pour les articles », je vais vous nommer des noms. Ray Bradbury, que peut-être que Louis, ça te dira rien, mais c'est quelqu'un qui écrivait des nouvelles. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions de télévision qui ont été faites sur Ray Bradbury, mais je vais vous nommer Margaret Atwood. Et Margaret Atwood a fait quoi? Handmaid's Tale, entre autres. Alors, fait que vous voyez, c'était vraiment des contributeurs, je vais dire ça comme ça, je pense que c'est le bon mot, de qualité qui participaient à l'émission. Et pas à l'émission, mais à chaque magazine. Donc, c'était intéressant. Il y avait à l'époque aussi, comme on le retrouve encore dans les journaux majeurs, il y avait la caricature et il y avait vraiment des artistes de grand talent à ce niveau-là. Alors, c'était fort intéressant. Hugh Hefner a joué un rôle clé dans la révolution sexuelle aux États-Unis, puis un petit peu partout sur la planète. Et particulièrement en 1960, en amenant une version plus libérale du Playboy aussi, puis plus ouverte justement sur la diversité et différentes choses. Et comme je disais tantôt, le lien avec Radio X, c'est qu'au niveau de la liberté d'expression, on a tenté de le faire fermer plusieurs fois. Et alors, à chaque fois, c'était quoi? C'était un combat de liberté d'expression. Oui. Alors, et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est pour ça que je dis, il y a un lien à faire avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui à Radio X, d'avoir le genre de discussion qu'on a sur les sujets qu'on a. Il a probablement un peu contribué à ce genre de choses-là et au débat.
Merci, Hugh.
Oui, absolument.
Il a contribué, j'imagine que tu t'en vas là aussi.
Oui,
hein,
écoute, l'avortement, curieusement, là, les gens vont être surpris, mais entre autres, il a vraiment contribué à ce que l'avortement devienne accessible aux États-Unis.
Oui, il a apporté un point intéressant quand même. Là,
oui.
C'est à son avantage.
Peut-être qu'il y avait des employés qui pouvaient avoir recours.
Il y avait peut-être intérêt à ce que l'avortement
possiblement.
En 1953, pas sûr que les condoms c'était optimal encore.
Ouais, hein, peut-être.
Lui, son moyen de contraception, c'était la balayeuse.
J'ai pas étudié trop l'histoire du condom, mais probablement qu'effectivement... Mais il s'est vraiment impliqué. Il a commencé vraiment à appuyer des mouvements qui étaient là. Puis il les a financés à ce niveau-là. Pour
lui,
c'était
important. Mais très sérieusement, c'est quand même le précurseur. C'est lui là qui a parti tout
totalement.
Ça.
Au niveau du racisme aussi, la lutte au racisme, en ayant des gens d'origine différente, des gens de couleur dans ses magazines et tout ça, et qui encore là faisait tomber des tabous à l'époque, souvenez-vous. Alors, il a fait ça, puis quand je dis qu'il a vraiment là, participé au niveau du droit de l'avortement et au niveau du droit du divorce également. Parce qu'à une époque, les gens ne se divorçaient pas. Il faut savoir qu'aussi, à l'époque, les gens vont se souvenir, puis... Louis, moi, ma mère travaillait pas quand j'étais jeune.
Effectivement, moi, je suis dans la dernière génération, je pense, de la maman là, qui était à la maison.
Même moi, ma mère nous a élevés à la maison. Là,
C'est fantastique, c'est fantastique. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit pratiquement plus.
Exact.
Mais à l'époque, il y avait un enjeu, c'est que les gens, souvent, c'était madame avec le nom du mari. Il y avait
madame portait
conjoint.
Le nom de famille du mari, tout était ensemble.
Totalement.
Monsieur allait travailler. Mais tu sais qu'à l'époque de nos grands-parents, Yvon Dallaire avait sorti une statistique fascinante. Il disait que 10% des enfants n'étaient pas l'enfant du père.
Wow!
le laitier, c'est le facteur.
C'était des gens pratiques.
Fait que l'Église et la société insistaient là, pour que les gens restent ensemble.
Alors, fait que vous voyez, puis il a contribué vraiment à financer des campagnes pour changer les lois restrictives au niveau de l'avortement et de la contraception aussi. Alors, est-ce que c'est un homme sans faute? Non. Mais clairement, il a fait des choses intéressantes à ce niveau-là. puis il a lutté au niveau de la xénophobie. Il a fait la promotion d'une diversité le plus tolérante également. Et bien sûr, la révolution sexuelle qui a été apportée par le Playboy. Je trouvais que c'était intéressant de parler de ça.
C'est hyper intéressant.
Et c'est le genre de phénomène aujourd'hui avec l'Internet. On le voit différemment, mais à l'époque, là, quand le Playboy, c'était un magazine que les gens, bien sûr, achetaient un petit peu en cachette, en quelque sorte, hein, parce qu'il était...
Toujours en dessous de l'oreiller, ben un peu collant. Là.
C'est rare que tu arrivais sur la table à café et tu voyais l'actualité, Reader's Digest, Playboy, là, c'est, alors, et souvent, ben, c'était une boîte en dessous, dans le garage ou dans le fond du garde-robe et des choses comme ça. Et moi, je me souviens très bien, pas au primaire, là, mais au secondaire, quand un ami arrivait et disait, hey, je suis tombé sur les Playboy d'un oncle ou de mon père, il cachait ça dans le garage ou des choses comme ça. Et là, ça devenait vraiment la fête au village. Alors je me disais, ben, on va faire un clin d'œil au Playboy. Et puis, je me disais, ben, ça mettra la table pour notre soirée, ma soirée ici.
Merci beaucoup. Vous. C'est un sujet super intéressant. Merci. Et ça me ramène au magazine Summum qu'on a ici. Très sérieusement, il y a des articles hyper intéressants dedans. C'est pas parce que j'écris dedans que je dis ça. mais très sérieusement, moi, je lis le magazine puis j'apprends des choses. T'sais, j'ai lu un article sur les Jeeps, l'histoire du Jeep, les films d'horreur. Il y a vraiment des trucs.
Un article sur l'histoire du Jeep dans le Summum.
Mais oui, dans le Summum magazine. Puis là, OK, bon, ici, j'ai
Est-ce que
tu as
l'impression que ça influence
André,
des acheteurs, mettons, des gens qui pourraient décider de s'acheter un Jeep?
Je sais pas, mais très sérieusement, il y a des articles super intéressants dans le magazine. Là, j'en ai un exemplaire ici parce que c'est l'exemplaire sur lequel, j'ai fait le cover et un de nos auditeurs, un de mes followers, en tout cas, bref, il voulait avoir ma signature dessus.
C'est très gentil, c'est un hommage.
Mais c'est très sérieusement, regarde ici, le meilleur livre de recettes au monde. Bon, là, on parle du meilleur livre de recettes. Après ça, on a les véhicules téléguidés. Bon, OK. Là, c'est peut-être pas le meilleur. Cassine. Jamais dans mon skate. On a les 20 lutteurs, les plus grands lutteurs de tous les temps.
T'as pas c'est qui les 20 lutteurs les plus grands de tous les temps?
Il y a également un article sur Elvis.
Je veux voir à quel point la personne qui écrit ça était dans le champ. C'est qui le 1 puis le 2?
Donc,
meilleur
on
lutteur.
A Triple H, évidemment.
Triple H, le meilleur.
Maurice Mad Dog Vachon, Abdullah The Butcher, Pat Le Rêve du Québec, Patterson, Hulk Hogan, non? André le Géant.
C'est incluant beaucoup de Québécois, là.
Oui, on mélange les Québécois. Fait
que les 20 meilleurs lutteurs de tous les temps, on verra, là.
Mais c'est des beaux souvenirs, ça, parce qu'à l'époque, au Colisée de la jeunesse, entre autres, pavillon de la jeunesse, il y avait Dino Bravo, tu te souviens de
les
ça, hein?
Puis,
il y avait les frères Rougeau, il y avait effectivement Mad Dog Vachon.
Il y avait-tu Gilles de Fish Poisson?
Oui, Eddie Critchman, Abdullah The Butcher, et c'était des belles années, c'était vraiment des belles années, alors fait que c'était pourquoi pas en faire partie? Mais c'est vrai qu'il y a des bons articles.
Il y a vraiment des bons articles, très sérieusement. C'est super intéressant comme magazine.
Avec une belle variété.
En plus de photos de demoiselles. Mais tu vois, moi, dans mon étude à moi, c'est important que ça reste plus style boudoir que érotique, sexualité. Tu sais, c'est important pour moi que ça reste classique.
Je suis d'accord avec toi. Puis, mais permets-tu d'ajouter quelque chose? C'est
bien
juste
sûr
pour que les gens voient, quand je dis que c'était quelque chose de spécial, je donne des noms. Pamela Anderson, Kim Kardashian a posé également dans le Playboy. Madonna, à plus d'une fois. Drew Barrymore, Drew Barrymore a fait quelque chose d'exceptionnel parce que, tu sais, on connaît Miley Cyrus. Hein? Miley Cyrus, c'était Hannah Montana, hein? Souvenez-vous. Et son père était... Souvenez-vous quand il y avait eu, à un moment donné, à twerker, je pense que c'était ça, le
twerker.
Oui, ouais, et puis... ça me fait mal aux hanches, moi, quand je le fais. Et elle avait fait une apparition avec une espèce de pouce, de doigts en l'air avec le foam, là. C'est la grosse main qu'on voit dans des événements sportifs, des fois. Et tout ça. Et elle avait été fortement critiquée avec la langue sortie à twerker et tout ça. Et son père, Billy Ray Cyrus, qui est quand même très populaire, on lui avait demandé qu'est-ce qu'il pensait de ça de sa fille. Il dit, je la trouve tellement intelligente. Il dit, si c'est ça que ça a pris pour tuer le personnage d'Anna Montana, il dit, puis lui donner la chance de devenir un adulte, ben, il dit, c'est ce que ça a fait. Il dit, moi, là, si j'avais pu me débarrasser, il dit, j'ai fait le plusieurs années, Key Breaky Heart, hein, souvenez-vous de ça. Et il dit, ça m'a mis sur la map, mais il dit, je suis encore, il dit, pour les gens, j'ai jamais rien fait d'autre que ça. Il dit, au début, c'est devenu populaire.
Collé au personnage.
Après ça, c'est devenu. Et alors, fait que Anna Montana a fait ça. Et Drew Barrymore a fait ça. Et souvent, on se rend compte que des artistes féminins, qui avaient, à un moment donné, qui étaient Disney ou des choses comme ça, qui avaient des émissions de télé plus jeunes et qui souhaitaient, à un moment donné, être considérés comme étant une adulte, c'était souvent un passage presque nécessaire. C'était comme un statement en disant...
Je suis plus la
jeune fille que vous avez vue dans les séries ou dans les films.
Passe-partout au Québec qui a fait ça, puis qu'il a fallu qu'elle fasse des...
Mais je pense que ça avait été fait avant son passage. Mais effectivement, il y a quelque chose dans ça. Je me demande si c'est pas...
Est-ce qu'elle est restée collée au personnage? Là, c'est tout le temps passe-partout.
T'es mal pris quand tu fais des choses comme celle-là.
Il y en a qui sont capables de bien s'en sortir. Tu sais, moi, quand je parle de ça, j'ai tout le temps l'exemple d'Harrison Ford.
Oui.
Harrison Ford, là, c'est Han Solo... Mais c'est aussi Indiana Jones, puis c'est aussi plein d'autres gars.
Puis tu vois, on vient de voir James Earl Jones qui vient de décéder à 93 ans, qui faisait la voix à l'époque, à la naissance de CNN, This is CNN, et qui faisait la voix de Darth Vader.
Ouais.
Et des gens qui vont se souvenir dans Fields of Dreams, qui faisait le journaliste, que Kevin Costner kidnappait finalement, ni plus ni moins, dans le film. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de le Roi Lion et qui faisait la voix. Et on parle de Darth Vader. Mais il a fait 200 films. Alors, fait que c'est quelque chose.
Simon, c'est déjà le moment d'aller à la pause parce que moi, je veux vraiment qu'on parle...
Me sens toasté.
Oui, mais non, mais tu vas voir, on va être doudou. Il y a un événement particulier qui s'est passé dans ta vie dont je veux que tu nous parles. J'ai
avec
peur
plaisir.
Qu'on manque de temps. Donc, on va tout de suite à la pause, mesdames et messieurs. On est en live sur TikTok si vous avez envie d'avoir un soutien visuel et de voir notre invité qui est en feu. Tout comme nous ce soir, vous êtes à l'écoute de la Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X.
La Sexploratrice
avec Mel Trudel. Radio X.